Nouveau numéro de En route vers les étoiles avec Lionel Bouris d'Albireo 78. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on va rester dans la banlieue de la Terre, si j'ai bien compris, puisqu'on va parler des dernières découvertes dans le système solaire. Et il y en a, semble-t-il. Alors moi, je croyais que tout était découvert pour le système
Alors
solaire.
en fait, depuis quelques années maintenant, on envoie des sondes dans toutes les directions, c'est le cas de le dire, aussi bien vers les premières planètes, Vénus et Mercure. Mercure qui, il y a très très longtemps, n'avait pas été observé de près. On vient d'y envoyer une sonde qui n'est pas encore satellisée, mais on a fait plein de découvertes. Et on est parti même jusqu'à Pluton, puisqu'il y a une mission qui est partie à destination de Pluton, qu'elle n'atteindra qu'en 2015. Et donc, il y a des sondes dans toutes les directions dans le système solaire. Et bien évidemment, avec toutes ces sondes-là, on fait des découvertes. On apprend des choses étonnantes. Et donc, on va faire aujourd'hui un point sur ces dernières découvertes, qui sont quand même relativement récentes.
Donc en fait, toutes les planètes, et notamment toutes les planètes du système solaire, ont donné lieu à des découvertes récemment, sans
Eh
rentrer
bien,
trop dans le détail, puisqu'on va y venir.
maintenant, presque
Presque,
oui, il
oui,
ne reste
presque.
plus qu'Uranus et Neptune qui sont un petit peu délaissés.
Très bien, ben on va voir ça dans quelques instants. Alors Lionel, on va parler bien évidemment, cette émission concernant les dernières découvertes dans le système solaire, si j'ai bien compris, ça donnera lieu à deux émissions, hein, c'est bien
Eh
ça?
bien, il y en a tellement à dire il va falloir qu'on coupe en deux. Donc, on va commencer par le centre de notre système solaire, puisqu'il y a des sondes qu'on envoie aussi pour observer le Soleil. Donc,
D'accord.
à tout seigneur, tout honneur, commençons par notre étoile. Alors, c'est l'étoile la plus proche de la Terre, bien évidemment. On en étudie d'autres, les plus proches, mais qui sont loin. Finalement, l'étoile qu'on connaît le mieux, c'est le Soleil.
Oui.
Mais malgré tout, il reste encore beaucoup de mystères, notamment sur son fonctionnement.
Alors, elle est proche de la Terre, elle est
On
à
ne connaît pas tout.
combien de
Alors, le
kilomètres?
Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. C'est plutôt
Oui.
la Terre qui tourne autour
Autour
à
du Soleil,
150
oui.
millions de kilomètres du Soleil. Le diamètre du Soleil, il faut savoir qu'il fait 1 400 000 kilomètres. Donc c'est énorme en diamètre. Température au centre, 15 millions de degrés. Donc là, ce ne sont que des superlatifs. On compte dans tous les millions. Température à la surface, 5 500 degrés. Alors c'est cette température-là, de 5 500 degrés, qui fait qu'il a une couleur plutôt jaune-orangé. Si le Soleil était beaucoup plus chaud, vers les 10 000 degrés, comme certaines étoiles, il serait plutôt blanc-bleu. S'il était un peu plus froid, 3 000 degrés, il serait beaucoup plus rouge.
Voilà.
Donc les couleurs des étoiles dans le ciel, si on regarde bien, les étoiles n'ont pas toutes la même couleur. Certaines virent vraiment à l'orange. Ce sont les étoiles les plus froides, mais en surface. Une étoile comme Bételgeuse est plutôt orange, on va dire. C'est la surface à 3 000, 3 500 degrés. Au centre, on dépasse facilement la dizaine de millions de degrés. Parce qu'à 3 000 degrés, aucune réaction thermonucléaire ne peut s'enclencher. Il n'y aurait pas production d'énergie.
On peut
Donc
faire,
on part vraiment de la surface.
on peut faire le parallèle, voir expérimenter ça avec un feu de bois, par exemple, ou. C'est le même principe, hein.
Exactement, il suffit de regarder la couleur des flammes et on se rend compte que les flammes au centre du feu sont bien plus bleues que l'extérieur des flammes. C'est-à-dire que le bleu, c'est les températures les plus chaudes et ça décroît progressivement vers l'orange et le rouge, c'est les températures les plus froides. Donc le soleil surface, c'est que 5 500 degrés. Ce qu'on a observé aussi depuis longtemps maintenant, c'est un cycle d'activité qui dure 11 ans. Alors comment on le sait? Eh bien on le sait, on va dire de manière très précise depuis 1755, c'est la date à laquelle on a commencé à faire des relevés systématiques du nombre de taches à la surface du Soleil. Régulièrement dans son cycle d'activité apparaissent des taches. Et ces taches, en fait, sont le reflet de l'activité magnétique. Et elles se trouvent à des endroits de la surface où le champ magnétique perce la surface. Et au pied de ces arches magnétiques qui percent la surface, il y a une température un petit peu inférieure. Pas beaucoup, hein. Ça fait juste 500 à 1000 degrés de moins
C'est peu.
qu'à côté,
Oui,
mais c'est
effectivement.
juste par contraste. Si on arrivait à prélever une tache solaire, donc qui paraît sombre sur les photos et quand on regarde le soleil à travers les instruments, une tache noire, on appelle ça les taches noires, les taches sur le soleil. Si
Oui.
on arrivait, évidemment c'est impossible à faire physiquement, à prélever une tache et à mettre dans l'espace, ce serait quelque chose de super brillant. Mais c'est juste par contraste par rapport aux zones environnantes qui sont à 5 500 degrés, ça paraît noir. Donc on compte régulièrement quand on peut voir le soleil, donc un temps ensoleillé, on peut voir le soleil. On a pratiqué depuis 1755 le décomptage des taches. Tous les jours, si on peut voir le soleil, on compte les taches qu'il y a présentes à la surface. Et on se rend compte que ce nombre de taches évolue suivant un cycle. Il reste à zéro pendant des années. On est dans le minimum du cycle. Puis d'un seul coup, ça monte, ça monte, ça monte. On passe par une phase de maximum où il y a plein de taches. Et après, ça redécroît à nouveau. Et ce cycle-là, entre les minimums et les maximums d'activité, ça dure 11 ans. On peut retrouver ce phénomène aussi dans les carottes, des carottes glaciaires. Et donc là,
il y a
des traces. Voilà. Oui, donc, oui. En période de maximum d'activité, il y a des répercussions sur Terre. Et dans les calottes glaciaires, et là, on peut remonter très, 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 très longtemps en arrière dans le passé, et on peut continuer à voir ce cycle solaire.
Et actuellement, alors, on en est où?
Alors, actuellement, normalement...
Je précède peut-être vos propos un petit peu. Bon, alors, revenez à ce que vous vouliez
un
dire.
Un petit peu.
OK, alors, on y reviendra.
Avec ces relevés de tâches, donc ça, ce sont des observations. Les scientifiques commencent par observer un phénomène, puis se posent des questions. Et après, une fois qu'on se pose des questions, on fabrique des modèles pour tenter de répondre à ce qu'on observe et pour tenter d'expliquer en fait les phénomènes observés. Et finalement, il n'y a aucun modèle informatique actuellement qui est assez réaliste pour rendre compte de ce cycle de fonctionnement de 11 ans. On sait que c'est à cause du champ magnétique. On sait à peu près comment est généré un champ magnétique. Il faut qu'il y ait, on va dire, un cœur, des réactions au cœur, mais qu'il y ait un cœur de fer qui tourne comme une dynamo. Mais finalement, avec nos modèles, on n'arrive pas, dans nos ordinateurs, à reproduire ce cycle de 11 ans. Et c'est un cycle, en fait, je vais préciser, ce qui se passe, c'est que tous les 11 ans, c'est le champ magnétique qui s'inverse. Le pôle nord devient sud, le pôle sud devient nord. Et il y a l'inversion du champ magnétique tous les 11 ans.
Sur le Soleil, je précise.
Sur le Soleil.
On est bien d'accord.
Sur Terre, il se passe exactement la même chose, mais ça ne suit pas un cycle périodique. Mmh. Donc on observe sur Terre l'inversion des polarités aussi nord-sud, mais c'est tout à fait apériodique. Et donc, pour étudier le Soleil, on a des instruments. Alors là, actuellement, les meilleurs instruments au sol sont situés au centre de l'AC. On envoie des sondes pour voir le Soleil, là elles s'affranchissent de l'atmosphère, mais les sondes, ce sont des petits télescopes, et on n'arrive pas à envoyer des très gros télescopes dans l'espace. Les plus gros télescopes sont bien évidemment ceux qui sont au sol, et le problème pour les télescopes au sol, c'est qu'il y a l'atmosphère. L'atmosphère est turbulente, et l'atmosphère nous brouille les images. Les meilleurs endroits au monde pour y installer des instruments qui observent le Soleil, c'est au milieu d'étendues d'eau, parce que l'eau absorbe l'énergie du jour, l'énergie du Soleil, ça calme l'atmosphère.
Ah oui.
Et pendant la journée, l'atmosphère est relativement calme au-dessus des étendues d'eau. Et donc, on y met les instruments au centre des lacs. Donc, il existe beaucoup d'instruments comme ça à travers le monde. Une digue d'accès pour arriver au milieu du lac et au bout de la digue, un télescope solaire. Et ça ne marche que pour les instruments solaires. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'idée de faire la même chose la nuit. Le problème, c'est que le soir, l'énergie absorbée par l'étendue d'eau est rayonnée la nuit. Donc l'atmosphère est beaucoup plus turbulente au-dessus d'un lac la nuit qu'elle ne l'est ailleurs. Donc il ne faut surtout pas se mettre au bord d'un lac pour observer la nuit. Pour observer le jour, c'est exceptionnel. Et donc là, on a des télescopes qui battent des records avec seulement des détails de quelques kilomètres à la surface du Soleil. Et là, on découvre des choses fantastiques. Alors, les constatations. Le dernier maximum solaire, c'était en 2001. C'était le cycle 23, donc on numérote les cycles maintenant depuis 1755. Le cycle maximum de 2001, c'était le 23e cycle. Et on est tombé dans le minimum en 2007. Et depuis, on attendait cette reprise d'activité qu'on estimait vers 2009. 2008, aucune tâche. Et même, on a battu un record. Il n'y a pas eu une seule tâche pendant 266 jours consécutifs en 2008. Ça, c'est un record qu'on a égalé depuis 1913. C'est un record qui datait depuis très, très longtemps déjà.
Oui, effectivement, oui.
Donc, aucune tâche pendant 266 jours en 2008.
Oui, vous avez précisé ma question. J'allais vous demander si ça avait déjà existé, ce phénomène. Mais voilà,
oui, ça a déjà existé, mais il y a très, très longtemps.
Il y a longtemps.
C'est-à-dire qu'on avait le cycle 23, le cycle 22, le cycle 21, ça n'a jamais été le cas. Donc là, on essaye de démarrer péniblement le cycle 24. En 2009, quelques tâches aux latitudes élevées. Ce qu'il faut dire, c'est que les tâches, quand elles commencent à apparaître au début de l'activité d'un cycle, elles apparaissent plutôt vers les pôles. Alors, pas si haut que ça, on va dire, dans les latitudes élevées. Et au fur et à mesure que le Soleil entre en activité, finalement, les tâches apparaissent de plus en plus vers l'équateur. Donc, il y a des tâches presque partout, mais surtout, elles migrent vers l'équateur. Donc là, c'est vraiment pendant l'inversion de polarité, le champ magnétique perce la surface partout et notamment entre les tropiques du Soleil. Donc les tâches migrent des latitudes vers l'équateur. En 2009, on a eu quelques tâches aux latitudes élevées. On s'est dit, tiens, c'est peut-être le début d'activité. Et bien finalement, non. Ces quelques petites tâches sporadiques disparaissaient aussi vite qu'elles étaient apparues et il n'y avait pas de suivi. Donc 2009, rien du tout. 2010. Alors 2010, c'est différent. Enfin, on commence à avoir des tâches qu'on arrive à suivre sur plus d'une période. Le Soleil fait un tour sur lui-même en 27 jours. Donc il tourne quand même, il tourne sur lui-même mais très lentement, et on arrive à voir réapparaître des taches. Donc là les taches durent, c'est on va dire on a enfin commencé notre 24e cycle.
L'amorce.
Voilà, ça débute. On a des taches qui restent sur le soleil, qui perdurent dans le temps. On a des protubérances qui sont aussi un effet secondaire de ce champ, cette inversion de champ magnétique, et on peut les observer dans la durée. Donc maintenant on prévoit un maximum vers 2013. C'est un maximum. Le problème, c'est que ça ne va pas être un maximum très important. C'est-à-dire que plus le maximum est tard, moins il est fort. On avait pourtant prédit, il y a quelques années, un maximum, un record dans l'activité. Bon, ben, finalement, nos modèles, visiblement, ne sont pas assez précis. C'est-à-dire que dans ce qui avait été prédit il y a quelques années, il y a des modèles qui étaient très pessimistes qui avaient dit « il ne va pas se passer grand-chose » et d'autres qui étaient très optimistes qui avaient dit « ça va être terrible, on va battre un record ».
Il y a quelques mois, on avait fait une émission sur ce cycle. Hein,
exactement.
Et dans laquelle vous nous disiez…
Quand on parlait du cycle 24…
On ne savait pas trop quand ça allait commencer. Donc oui, là, il y a un peu plus d'informations.
Et dans l'émission qu'on avait faite la dernière fois sur le cycle 24, il me semble bien avoir dit qu'on prévoyait un record d'activité, ça allait être terrible. Bon, bah, pour l'instant, on est tranquille. On est tranquille, ça démarre péniblement. Et vu que ça a mis longtemps, finalement, le cycle 23, au lieu de durer 11 ans, il a duré 13 ans. Ça arrive. 11 ans, on va dire, c'est une moyenne. C'est une moyenne qui est à peu près respectée, parce que le soleil, il est quand même assez fluide, hein, c'est du plasma. Donc, ce 11 ans, ce cycle de 11 ans est à peu près respecté, sauf de temps en temps où il y a des ratés. Et là, ce cycle 23 a duré 13 ans finalement. Et on commence simplement maintenant le cycle 24, mais avec du retard.
On en parle avec d'autant plus d'intérêt que, bien évidemment, ces cycles ont une influence directe sur l'activité humaine.
Alors, l'activité humaine,
enfin, en tant que telle, indirecte, on va dire
l'activité sur Terre.
Voilà.
C'est-à-dire que plutôt le climat, quand j'entends activité, ce n'est pas l'activité
des hommes, mais plutôt le climat
terrestre. Certains vont dire... Non, parce qu'en fait, quand on calcule la puissance émise par le Soleil pendant son maximum d'activité et la puissance émise pendant son minimum, il n'y a presque pas de différence. Ça se joue en quelques pourcents, mais même quelques dixièmes de pourcents. Donc, il n'y a presque pas de différence au niveau rendu énergétique. Le problème, c'est que ce quelques pourcents de plus, ça génère des réactions dans l'atmosphère. Et dans certaines longueurs d'onde, ce n'est pas de quelques pourcents qu'il faut parler. Notamment en ultraviolet, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il est faux de dire que ça ne joue pas, ça doit avoir un certain rôle. Et en fait, quand on parlait tout à l'heure de ce cycle 24 qui a du mal à démarrer et qui visiblement a eu des ratés, et qu'en 2008, on a battu un record, et il faut remonter à 1913 pour avoir aussi peu de tâches pendant aussi longtemps, eh bien ça fait penser justement à toutes les anciennes ratées du Soleil, parce que ce n'est pas la première fois que ça se déroule, que ça se passe. On a observé ce phénomène en 1810, on a observé ce phénomène en 1900, et on a surtout observé ce phénomène entre 1645 et 1715, c'est-à-dire des ratés dans l'enclenchement d'un cycle solaire. On l'a observé. Et qu'est-ce qui s'est passé
comme
à
une carburation
ces années-là
qui se fait mal, en fait.
Exactement, ça n'a pas démarré. Il y a des ratés. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé à ces moments-là dans le passé? Eh bien, on observe des hivers terribles. 1810, il y a eu des hivers terrible, la Seine a gelé. 1900, c'est pareil, ça a gelé. Il y a eu des inondations terribles après, il y a eu des pluies torrentielles. De 1645 à 1715, Louis XIV s'en rappelle encore, il y a eu des famines terribles. Donc, quand on s'est rendu compte que finalement, toutes ces catastrophes climatiques passées se sont déroulées bizarrement, ça coïncidait avec des cycles solaires ratés, peut-être que finalement, ça a un impact. Alors, on a même fini par appeler ça des minimums. Alors, de 1645 à 1715, on appelle ça le minimum de Maunder. Donc, c'est un mini-âge glaciaire. Il faut bien dire que sur Terre, la température moyenne a baissé. Ça se compte en degrés, mais 1 ou 2 degrés, ce n'est pas beaucoup.
Ouais, ouais.
Mais c'est une moyenne sur le globe. C'est-à-dire que, comme c'est une moyenne, il y a des endroits, finalement, on ne ressent rien. Mmh. Mais pour faire la moyenne, là où on le ressent, on va bien le ressentir. Et donc, à nos latitudes, nous, on va dire tempérées, eh ben, les hivers sont devenus très rigoureux. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait eu des canicules de temps en temps pendant toutes ces périodes-là. Mais globalement, la température globale de la Terre moyenne a baissé. Et ça s'est traduit par des hivers rigoureux. 1710-1709, il y a eu un hiver qui a causé une famine terrible en France et dans toute l'Europe. Et il y a eu des milliers de morts. 20 000 morts en France, l'hiver 1709. Parce que tout gelait. Il n'y a pas eu de reprise d'activité agricole l'année d'après. Il y a eu une famine terrible en France. C'est aussi pour ça que Louis XIV était devenu impopulaire. C'est quand même pas de sa faute, c'était la faute du soleil.
Oui,
à l'époque, il ne le savait pas, mais c'était le roi soleil aussi. Hein. Voilà, il fallait bien qu'il assume un petit peu. Hein. Alors finalement, on se dit, ce cycle de 11 ans-là, est-ce qu'il ne serait pas modulé par un cycle plus grand? Puisque là, on vient de dire, on est 2010. Il faut remonter en 1910-13 pour retrouver pareil. Je parlais de l'année 1810 et puis 1710, c'était l'époque de Louis XIV. Eh bien oui, finalement, visiblement, il y a une modulation selon un cycle de 100 ans qui viendrait moduler ce petit cycle de 11 ans. Et tous les 100 ans, ce soleil-là raterait ses maximums et il resterait en minimum. Donc on appelle ça le cycle de Gleisberg. Alors, on va dire, pour l'instant, on extrapole et on ne peut pas, et certains scientifiques le disent, on ne peut pas généraliser avec ce cycle de Gleisberg puisque ce serait que la quatrième fois qu'on observe le cycle. Alors que le cycle de 11 ans, c'est un peu plus.
C'est observable.
Mais un cycle qui dure 100 ans et on n'en a que 4, on ne peut pas généraliser. Alors maintenant, on a les sondes pour observer le soleil. On les place en orbite pour observer le soleil 24 heures sur 24. Et justement, on espère comprendre un peu plus sur le soleil pour essayer de comprendre ce qui se passe. Déjà le cycle, pouvoir le reproduire en laboratoire, comprendre pourquoi ça s'inverse. Et ce fameux cycle de 100 ans là qui vient moduler le petit cycle de 11 ans, quelle est sa cause? Donc ouais. On a encore plein de découvertes à faire. On a découvert plein de choses sur le soleil, on est encore loin de tout comprendre.
Matériel et technologie fragile parce qu'il faut quand même la protéger du soleil.
Non seulement il faut le protéger du soleil, mais encore, on va dire, à la distance à laquelle on est assez loin du soleil, mais il faut le protéger du froid.
Oui, oui, non, mais je parlais notamment des sondes qui observent le soleil.
Alors, il faut protéger, oui, en période d'activité, lorsqu'il y a des explosions, on appelle ça des éjections de masse coronale. Il y a des explosions à la surface du soleil qui nous envoient des particules. C'est ce qui nous fait des jolies aurores polaires sur Terre. Ça, c'est beau, mais les particules, ça fait quand même des dégâts. Et donc, il y a des satellites qui observent le soleil simplement pour prévenir d'explosions éventuelles pour qu'on puisse protéger le matériel.
Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez En route vers les étoiles avec Albireo 78 et Lionel Bouris. Il y a quelques instants, on a passé un bon quart d'heure sur le soleil. Il fallait s'y attarder parce que c'est un astre important de notre système solaire. Sans lui, on ne serait pas là en fait.
Exactement.
Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on va en venir aux planètes qui orbitent autour du Soleil.
Alors on va commencer par Mercure,
proche.
La plus proche.
Oui.
Alors Mercure est à 58 millions de kilomètres du Soleil seulement, elle fait le tour en 88 jours. Donc c'est la plus proche. Température au Soleil, 425 degrés. Température à l'ombre, moins 175 degrés. Et on passe de l'un à l'autre sans transition, puisqu'en fait il n'y a pas d'atmosphère qui jouerait un peu le rôle de régulateur thermique. Donc c'est soit tout chaud, soit tout froid, il n'y a pas de juste milieu. C'est une planète qu'on ne connaît pas beaucoup. Parce que d'abord, elle n'est pas grande, 4878 km de diamètre, c'est petit.
Par rapport à la Terre ?
La Terre, c'est 12700.
Voilà.
Là, c'est 4800.
Oui, c'est tout petit.
S'il y a 8000 km de moins en diamètre, c'est énorme. Donc, c'est une toute petite planète, et surtout, elle est très proche du Soleil. Et elle ne s'en éloigne jamais beaucoup dans le ciel. C'est-à-dire que quand elle est au maximum d'écart, on appelle ça une élongation maximum, elle est à 27 degrés du Soleil. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous tendez votre bras et vous écartez la main, du petit doigt au pouce, donc doigt le plus écarté possible à bout de bras, ça fait 20 degrés dans le ciel. Là, Mercure, elle s'éloigne à 27 degrés. Donc en gros, vous rajoutez la longueur d'un pouce. Si vous mettez le petit doigt sur le soleil, voilà au maximum où elle se retrouve dans le ciel. C'est jamais très loin du soleil, ce qui fait qu'elle se couche en gros maximum 2 heures après le soleil, ou elle se lève maximum 2 heures avant le soleil. Ce ne sont jamais des conditions favorables pour observer un astre, parce qu'on attend toujours que l'astre passe au sud, là où l'atmosphère est la plus fine pour que ces rayons traversent, pour que nous pas être trop perturbés. On essaye d'éviter d'observer des astres à l'horizon, parce que là, c'est là que les rayons traversent le maximum d'atmosphère, c'est turbulent, c'est perturbé. Alors le problème avec Mercure, c'est que comme elle suit le Soleil de près, si on veut l'observer le soir ou le matin lorsque le Soleil est couché, Mercure est déjà proche de l'horizon. Ce ne sont jamais de bonnes conditions d'observation. Donc voilà pourquoi Mercure, au télescope, ça n'a jamais donné grand-chose. Et il a fallu attendre 1975 pour qu'on y envoie une sonde. Alors, ouais. C'est Mariner 10 qui est passée à côté de Mercure en 1975. Et à l'époque, elle a cartographié 45% de la surface. Et puis, c'était tout.
Ça doit être grillé complètement, j'imagine.
Alors, ça ressemble à la Lune.
Voilà.
Les images que nous a transmises Mariner 10, on avait l'impression de regarder la Lune. C'était un champ de cratères. En gros, c'était la Lune. Aucune différence. Alors, depuis, on étudie quand même Mercure avec des radars, mais des radars de la Terre. Et on s'est rendu compte que c'était une planète qui était extrêmement dense. En fait, on pense que 75% de son volume est rempli par son noyau. Donc là, c'est record toute catégorie. Le noyau d'une planète ne constitue pas 75% de la planète.
Si je comprends bien, ça se trouve, c'est une planète, c'était peut-être une planète gazeuse dont il reste uniquement le noyau.
Alors,
c'est une hypothèse, je dis ça puisqu'on en parle.
Il y a peu de chances que ce soit une planète gazeuse vu la proximité.
À moins qu'elle ait changé d'orbite.
Ça a essoufflé, peut-être. Voilà, donc il existe une hypothèse. C'est plus qu'une hypothèse de travail, mais sur la migration des planètes pour expliquer les systèmes planétaires que l'on observe autour d'autres étoiles avec des grosses planètes gazeuses proches de leurs étoiles qui ne peuvent pas se former. Donc là, ça pourrait être une énorme planète qui ait perdu son atmosphère, il ne reste plus que ça. Donc c'est une planète qui a la particularité d'avoir une énorme quantité de son sous-sol en fait constituée par son propre noyau. Alors depuis 1975, finalement il faut attendre 2008 pour avoir plus de renseignements sur Vénus, sur Mercure. Pourquoi ? Parce qu'on y a envoyé une sonde. Donc le 14 janvier 2008, c'est la sonde Messenger. Et Messenger donc a été envoyé vers Mercure pour en faire une cartographie. Alors le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile d'envoyer une sonde vers le centre du système solaire. Parce qu'elle part de la Terre, avec la vitesse de la Terre. Elle a déjà ça comme vitesse initiale. Et quand on a ça comme vitesse initiale dans une orbite, on peut à peine faire moins que l'orbite de la Terre. Donc très difficile de s'arrêter à l'intérieur du système solaire. Donc elle est passée comme un boulet de canon à côté de Mercure et il faut la faire freiner. Oui, mais freiner, il n'y a pas de pédale de frein non plus. C'est-à-dire qu'il faut être astucieux et il faut faire des passages successifs à proximité des planètes pour, par freinage gravitationnel, courber l'orbite et la faire freiner petit à petit. Et donc cette sonde Messenger, qui doit arriver en orbite autour de Mercure en 2011, au mois de mars 2011, est déjà passé plusieurs fois à côté de Mercure pour modifier son orbite et pour pouvoir s'y satelliser. Donc elle est déjà passée plusieurs fois et elle nous a envoyé, à chaque passage, elle nous a envoyé de nouvelles images. On en saura nettement plus lorsqu'en 2011, elle se satellisera complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté avec ces passages-là de Messenger ? Il y a beaucoup de cratères brillants. Et ça, c'est étonnant, parce qu'en fait, Vénus, Mercure...
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Alors, tout ce qui est brillant dans le système solaire, ça veut dire jeune, en âge. Parce qu'en fait, avec le bombardement météoritique incessant, il y a toujours des cailloux qui tombent partout. On en a 40 000 tonnes qui tombent par an sur Terre, donc on est bombardé. Mais nous, on est protégé par notre atmosphère, donc finalement, il y en a quand même moins qui touchent le sol par rapport à ce qui nous tombe dessus. Sur Mercure, tout ce qui va vers la planète tombe au sol. Il n'y a pas d'atmosphère pour les arrêter. Et donc, Mercure est bombardé par des astéroïdes, des météorites, probablement des comètes. Mercure est bombardé par le rayonnement solaire. Et vu la distance à laquelle elle se trouve du Soleil, le rayonnement solaire est très important. Et donc, tout ça fait que sur Mercure, il y a beaucoup de transport de matière, on va dire. Et donc, rien ne peut être brillant. Tout devrait être recouvert de poussière. Si on trouve quelque chose de brillant, ça veut dire que c'est jeune.
Que c'est jeune, d'accord.
Voilà. Et donc, ces cratères brillants, on se dit, mais là, ça doit être très, très jeune. Et finalement, peut-être même beaucoup plus jeune qu'on ne le pense. Ça veut dire qu'on pense même maintenant qu'il y a toujours ces bombardements incessants qui renouvellent la surface de Mercure. Et donc, il y a toujours des cratères en train de se former.
Mais des bombardements incessants qui viennent du Soleil ?
Non, des bombardements de comètes ou de météorites qui n'ont pas été assombris par le rayonnement solaire, qui lui use la surface.
D'accord, mais ça ne se vérifie pas dans le reste du système solaire.
Ça se vérifie. On en a 40 000 tonnes qui tombent sur Terre aussi
donc,
tous les ans.
Voilà, ok.
Donc finalement,
là, il
n'y
a pas d'atmosphère, il n'y a rien du tout.
Finalement, ça explique pourquoi c'est très jeune, c'est qu'il y a des bombardements incessants. Et lorsqu'en 2011, donc le 18 mars 2011, notre sonde Messenger sera en orbite autour de Mercure, peut-être qu'on en pourra en voir en direct des bombardements. Alors l'orbite sera une orbite polaire, c'est-à-dire qu'on pourra même passer au-dessus des pôles nord et sud, ce qui fait qu'avec des orbites polaires, on observe tout le tour de la planète. Alors ça, c'est intéressant déjà pour faire une cartographie complète, chose qu'on n'a pas encore tout à fait maintenant. Et deuxième chose, en passant au-dessus des pôles, on pourra voir si dans le fond de certains cratères, parce qu'au pôle, il peut y avoir certaines zones dans certains cratères qui sont perpétuellement à l'ombre, est-ce qu'il n'y aurait pas des dépôts de glace ? Parce que là, ça reste à moins 175 degrés tout le temps. C'est jamais éclairé par le soleil.
J'ai bien compris, c'est toujours dans l'optique d'une colonisation, d'une exploration du système solaire.
Voilà. Bah, alors, enfin, peut-être là, on pas sur Mercure. Hein, mais bon, ça permettrait de dire que l'eau est abondante partout et que ce n'est pas juste sur Terre qu'elle est apparue. Donc si l'eau est quelque chose d'abondant qu'on peut trouver sur toutes les planètes, peut-être que la vie, ça peut aussi facilement apparaître. Après, il faut juste qu'il y ait les bonnes conditions.
Voilà.
Mais donc l'eau, c'est quelque chose qui ne serait pas tout à fait rare.
Voilà, c'est bien ça. Si on la trouve partout, ça veut dire que dans d'autres systèmes solaires...
En plus.
On la trouvera sans doute.
Exactement.
Il y aura des règles.
Exactement. Alors sur Mercure, on y a trouvé aussi des plaines volcaniques. Hein, et certains des cratères ne sont pas tous des cratères dus aux météorites, mais ce sont des cratères d'anciens volcans. Et on y a retrouvé quelque chose qu'on a retrouvé sur la Lune et dont on parle récemment.
Oui.
C'est des escarpements. On appelle ça des escarpements. C'est dû à la contraction par refroidissement. C'est-à-dire qu'une planète refroidit, parce qu'en son centre c'est chaud, il y a un noyau quand même chaud. Et comme tout ce qui existe en physique, il faut qu'il y ait un équilibre thermique. Donc quand c'est trop chaud par rapport à quelque chose qui est moins chaud, eh ben, il y a échange de chaleur. Donc la planète refroidit de toute façon naturellement, puisque dans l'espace c'est beaucoup plus froid. Et par refroidissement, ça se contracte. Et quand ça se contracte sur la croûte, ça fait des fissures. Donc on l'a observé récemment sur la Lune, qui a perdu 100 mètres en diamètre. Elle se contracte parce qu'elle refroidit. Sur Mercure, on a observé les mêmes phénomènes dus au refroidissement de la planète. Donc là, on a déjà appris plein de choses avec juste ces quelques passages de Messenger juste au-dessus de Mercure. Mais elle n'est pas encore en orbite. On en saura bien plus à partir du mois de mars.
Très bien, on va faire une nouvelle pause et on parlera de la planète Vénus dans quelques instants. Voilà, on va continuer à parler du système solaire et des dernières découvertes du système solaire. Alors c'est une émission qui est fort copieuse. On a pris un petit peu de retard, mais enfin c'est pas grave parce qu'on prend le temps de bien comprendre ce qui se passe. Et là on arrive à la planète, on a commencé par la planète Mercure qui était la plus proche du Soleil. Celle qui est encore la plus proche par rapport à la Terre, elle vient juste après Mercure, c'est Vénus.
C'est Vénus. Vénus, alors il faut refranchir à nouveau 50 millions de kilomètres.
Quand même.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les trois premières planètes du système solaire, Mercure, Vénus, Terre, c'est tous les 50 millions de kilomètres à peu près qu'elles sont réparties. Mercure à 58, Vénus à 104. Et la Terre à 150. Donc tous les 50 millions de kilomètres, on trouve une planète. On arrive sur Vénus, qui a longtemps été surnommée, puis qui est toujours surnommée la sœur jumelle de la Terre.
Il y a des raisons à cela.
C'est la jumelle en taille.
En taille.
Mais c'est tout. Parce qu'au niveau des caractéristiques, ce ne sont vraiment pas les mêmes choses. Donc au niveau de la taille, oui, 12104 kilomètres. Comparé aux 12796 de la Terre, on va dire c'est presque pareil. Elle fait le tour du Soleil en 224 jours, pour la Terre c'est 365, et sur Vénus, alors surtout ce qu'il y a, c'est une énorme atmosphère, donc épaisse atmosphère, contrairement à Mercure qui n'en a pas, à la Terre qu'en a une, mais là c'est une atmosphère très très épaisse, qui a un énorme effet de serre, c'est ce qu'il faut savoir, et l'effet de serre est tellement important qu'au sol il fait plus de 460 degrés, et la pression, 90 atmosphères, c'est comme si on vivait à 900 mètres, sous l'océan. Donc, énorme atmosphère, énorme température.
Si je peux me permettre, c'est vraiment la jumelle de la Terre, parce que je crois me souvenir vaguement, il y a quelques dizaines d'années, des scientifiques qui disaient, mais il suffirait de modifier, enfin ça c'est peut-être encore de la science-fiction, mais il suffirait que l'atmosphère vénusienne se modifie pour qu'elle puisse devenir éventuellement habitable ou abriter une certaine forme de vie.
Voilà, où il suffit qu'on continue tel qu'on est parti pour transformer notre planète en Vénus. On est bien parti aussi. Donc elles peuvent réellement être jumelles, hein, tout dépend laquelle on veut modifier. Mais oui, tout à fait. Au niveau masse, on va dire, elles peuvent retenir une atmosphère équivalente, puisque c'est la masse qui détermine le pouvoir de gravité, le pouvoir d'attraction par rapport aux particules. Donc au niveau masse, c'est à peu près la même chose. Elles pourraient avoir exactement la même atmosphère. La composition n'est pas la même du tout. Alors, le désavantage avec Vénus, c'est qu'on ne voit absolument pas le sol avec cette énorme atmosphère. Donc on ne peut pas savoir, de la Terre en tout cas, facilement, en tout cas avec nos instruments optiques, en combien de temps tourne le sol. On l'a su en observant avec des radars. Donc on a d'énormes radars sur Terre dirigés sur Vénus. Et là, on peut percer l'atmosphère et on voit les détails au sol et on peut déterminer à quelle vitesse tourne le sol. Et le sol tourne en 243 jours.
Oui, c'est assez semblable encore.
Donc ça fait en gros une journée sur Vénus.
Oui.
Non, le sol tourne en 243 jours, pas en 24 heures.
D'accord, oui, autant
pour moi. Une journée vénusienne, ça dure un an.
Ah oui.
En gros, c'est ça. Mais bon, c'est tellement épais que de toute façon, on ne voit pas le soleil. Mm-hmm. Et c'est tellement épais qu'il fait chaud, que ce soit le côté éclairé ou le côté pas éclairé. C'est la même température. À une dizaine de degrés près, il n'y a pas de différence.
Ça pourrait alimenter...
On ne se rend pas compte.
Oui, ça pourrait alimenter certains sketchs.
On ne se rend pas compte.
Qu'avez-vous fait dans la nuit du 1er au 2 janvier?
Ouais, voilà. Là, c'est la nuit de 2010 à 2011.
Voilà.
Ce serait presque ça. Alors, On s'est rendu compte que par contre, bah, au niveau des nuages, ça allait beaucoup plus vite puisque les nuages tournent en 4 jours seulement. Donc on appelle ça la super rotation des nuages. Alors les nuages, ça va jusqu'à 360 km/h, c'est énorme. Alors on a envoyé quand même des sondes. En 1974, les Américains ont envoyé la sonde pionnière Vénus 1. Elle a traversé l'atmosphère et elle est arrivée au sol. Mais avec cette température-là, parce que 460 degrés, il n'y a rien qui résiste. Hein. En tout cas, pas très longtemps. Hein. Le plomb fond à cette température-là, elle a duré 67 minutes.
Quand même.
Alors, c'est la première. C'est la première, mais elle a été, on va dire, ce record-là a été effacé 15 jours plus tard par la sonde soviétique Venera 2, qui, elle, est restée 95 minutes. Donc, on va dire 30 minutes de plus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'atmosphère est... à une telle composition, c'est qu'il pleut de l'acide sulfurique. Donc ça aide pas. Il fait très chaud, c'est assez corrosif, il pleut de l'acide sulfurique. Et donc voilà pourquoi les sondes ne sont jamais restées vivantes très très longtemps.
Ben oui, ça se comprend.
Alors il a fallu attendre 1994. Troisième sonde, c'est la sonde Magellan. Celle-là par contre est restée en orbite et elle a fait une cartographie radar. Et c'est là qu'on a pu voir le sol, les reliefs sur le sol. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas trop de reliefs sur...
Il y a un continent.
On va dire qu'il y a un gros continent, voilà. Ouais. Genre continent comme l'Australie. On lui a donné un nom, hein, Ishtar Terra. C'est comme l'Australie. Par contre, en son centre se trouve un mont. Il y a une chaîne de montagnes avec un mont de 11 km d'altitude. Hein. Ce sont les monts Maxwell.
Voilà.
Alors à la surface, il y a des points chauds. Comme sur Terre, par exemple, Hawaï, c'est un point chaud qui est en éruption volcanique perpétuelle. Eh bien, sur Vénus, on observe aussi des points chauds et on mesure la température de ces points chauds avec les sondes qu'on a actuellement en orbite. Et on pense que peut-être il y aurait encore une activité actuelle, une activité volcanique actuelle. Alors l'atmosphère, il y a dans les basses couches de l'atmosphère une pellicule de vapeur d'eau. Juste au-dessus, à 40 km d'altitude, il y a un voile de monoxyde de carbone. Et entre 45 et 75 km, là, on trouve des nuages d'acide sulfurique. Alors, il y a du soufre aussi, beaucoup de soufre, puisque ça se transforme en acide sulfurique quand ça se mélange avec la vapeur d'eau. Il y a du soufre. Et c'est grâce au soufre que Vénus a un tel éclat. C'est le soufre qui renvoie 80% du rayonnement solaire. Et puisque le rayonnement solaire est renvoyé dans l'espace... Eh ben, on a l'impression de regarder réellement un phare. Donc Vénus est toujours éclatante dans le ciel grâce à son épaisse atmosphère, mais grâce à sa couche de soufre. Donc très 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 brillante. Donc c'est, on va dire, notre jumelle de la Terre, mais qui a piégé... Alors, contrairement à nous, on a piégé 96% du CO2.
Oui. Hein.
Sur Terre, tout est piégé, on va dire, dans des dépôts de carbonate. C'est-à-dire le carbonate, c'est du dioxyde de carbone, en tout cas c'est du carbone qui a été piégé en présence d'eau. Et ça fait des réserves, mais en profondeur. Donc, ce n'est plus dans l'atmosphère. Nous, on a piégé notre carbone. Vénus n'a pas piégé son carbone. 96% de l'atmosphère est composé du dioxyde de carbone.
Ce qui explique,
c'est énorme. Oui, donc, voilà l'énorme effet de serre. C'est parce que le dioxyde de carbone n'est pas piégé du tout. Alors, le peu d'eau qui reste sur Vénus, hein, si on estimait que tout ce qu'on a vu sur Vénus, si on le mettait à la surface, ça ferait... une petite pellicule d'eau de 14 mm d'épaisseur.
Ouais, rien du tout, quoi.
Sur Terre, c'est une moyenne de presque 3 km d'eau qu'il y a.
C'est si une on arrive à mettre partout. Hein.
Donc, énorme différence.
Oui, tout à fait.
Alors, où est passée toute cette eau qui a disparu? Eh ben, on pense qu'elle s'est échappée dans l'espace. Autre preuve du fait qu'on pense qu'elle s'est échappée dans l'espace, il suffit de mesurer le rapport deutérium-hydrogène. Alors, le deutérium, c'est un isotope de l'hydrogène. Dans l'eau, il existe plusieurs espèces d'eau, en tout cas plusieurs espèces d'hydrogène. Et dans tout le système solaire, le taux entre les deux espèces est constant. On mesure sur Terre un taux de deutérium de 0,05%. Voilà ce qu'il y a. Sur Vénus, on mesure 6%. C'est 120 fois plus élevé. Ça veut dire que le deutérium, qui est plus lourd que l'hydrogène, reste plus facilement sur la planète.
Le reste
de l'hydrogène qui fait le maximum s'est échappé dans l'espace.
Donc ça permet de faire une extrapolation et de savoir qu'il y avait d'énormes quantités en fait.
Et bien voilà. Si on remonte à l'envers finalement l'histoire de Vénus, on récupère tout l'hydrogène qui a dû fuir dans l'espace. On se rend compte que finalement, au début de la formation de Vénus, il devait y avoir un océan entre 20 et 100 mètres de profondeur. Et donc pas les 14 mm qui restent maintenant.
Voilà, c'était quand même moins que sur la Terre.
C'était quand même largement moins que sur la Terre. Parce qu'elle est beaucoup plus proche aussi du Soleil.
Oui, bien sûr.
Donc. Avec tout ça, alors, à l'époque, alors, il a dû exister de l'eau liquide sur Vénus, entre 20 et 100 mètres de profondeur. À l'époque où il y avait cette eau-là, on va dire presque il y a 4 milliards et demi d'années, le Soleil était moins brillant que maintenant. Donc il rayonnait 30% de moins. Et donc sur Vénus, les conditions devaient être beaucoup plus favorables pour qu'il y ait de l'eau liquide. Donc il y avait de l'eau, probablement à l'état liquide, mais le soleil a évolué dans sa production d'énergie. Il est maintenant beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, et au niveau de Vénus, ça se ressent. Et donc effectivement, eh ben, cette eau a disparu. Donc elle n'est plus sous forme liquide, c'est de la vapeur, et en plus, l'hydrogène s'est échappé dans l'espace. On observe aussi, ben, on essaye d'observer en tout cas toutes les perturbations atmosphériques. Hein. Vénus, c'est une immense atmosphère. Et ce qu'on s'est rendu compte donc, en étudiant la formation des nuages, c'est qu'ils se forment du côté de l'équateur. Ils migrent vers les pôles, comme nous en fait, hein. Comme nos ouragans qui prennent naissance aux tropiques et puis finalement après ils rebouclent, ils reviennent en tempête vers l'Europe. Et bien là, c'est pareil. Et les nuages s'enroulent en spirale autour des pôles. Et on a observé donc, mais très très récemment, deux gigantesques vortex au niveau des pôles. Mais ça fait des trombes quoi, qui descendent à l'intérieur de l'atmosphère. Donc ce serait presque des yeux, des accès vers l'intérieur de la planète. Et donc des vortex qui mesurent 2500 km de diamètre. Il y a gigantesques maelstroms au pôle, au-dessus des pôles de Vénus. Donc voilà les dernières nouvelles transmises par la sonde Magellan.
Très bien. On fait une nouvelle pause et on va parler d'une autre planète, si on peut la nommer ainsi, de notre système solaire. Dernière partie de cette première partie, si je puis m'exprimer ainsi, consacrée aux découvertes récentes dans le système solaire. On a étudié Mercure, on a étudié Vénus, on a étudié le Soleil, j'allais l'oublier, pardon. Et maintenant, nous allons parler du satellite de notre bonne vieille planète, de notre bonne vieille Terre. Il s'agit de la Lune.
Et bien sur la Lune, on envoie de plus en plus de sondes. Hein. On n'y va plus depuis les sondes Apollo, on va dire, 1973. Hein. On n'y met plus les pieds, mais ce n'est pas pour autant qu'on a délaissé son étude. Et là, c'est même reparti de plus belle. Hein,
oui,
puisque les Chinois, les Indiens, les Japonais,
oui.
Il n'y a pas que les Américains et les Russes qui étudient maintenant, on va dire, le système solaire. Beaucoup d'autres nations sont dans la course et envoient des sondes. Et donc, les Japonais, les Indiens et les Chinois, alors les Chinois sont pas aussi, les Chinois aussi, donc tout le monde va sur la Lune pour étudier la Lune. Alors, la question, c'est de l'eau ou pas. Actuellement, c'est ça. Pourquoi cette recherche fondamentale d'eau? Pour deux raisons, c'est que l'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Et avec l'hydrogène et l'oxygène qu'on pourrait extraire de l'eau trouvée sur place, eh ben, ça permet de respirer pour les astronautes qui éventuellement s'y installeraient, et ça permettrait de refaire le plein pour la propulsion des engins. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de partir avec tout ce qu'il faut pour vivre sur la Lune depuis la Terre. Ça ferait une masse énorme et c'est vraiment impossible pour y rester. Faire des bases permanentes avec tout le matériel qui viendrait de la Terre, c'est quelque chose d'énorme. Mais aller s'installer et pouvoir récupérer toute la matière première sur place, ça serait beaucoup mieux. Et donc, s'il y avait de l'eau sur la Lune, on récupérerait ces atomes d'hydrogène et d'oxygène nécessaires au bon fonctionnement d'une base sur la Lune.
Encore faut-il savoir s'il y en a assez.
Alors, est-ce qu'il y en a assez ? Alors, on a des idées pour la recherche. Alors, par exemple, la sonde japonaise Kaguyama, le but était d'explorer les pôles. Alors, au pôle sud, il y a certains cratères qui sont toujours dans l'ombre, comme pour Mercure tout à l'heure dont on parlait. En lumière rasante au niveau des pôles, il y a des cratères à cause des remparts qui ne voient jamais le soleil, ou en tout cas certaines parties de certains cratères. S'ils sont toujours à l'ombre, il peut y avoir des dépôts de glace, par exemple, et évidemment de l'eau. Donc, on n'a pas trouvé grand-chose. On a exploré aussi par radar. On a d'énormes radars sur Terre, notamment à Arecibo, donc dans l'île de Porto Rico. On a un radar de plus de 300 mètres de diamètre. Et lui, il a exploré donc, le sous-sol de la Lune à 30 cm de profondeur. Et
oui,
finalement,
toujours
aucune trace d'eau. Alors pourtant, les mers, hein, on appelle ça les mers, hein, sont observées depuis l'Antiquité. Hein.
Oui,
donc il y a des mers, malheureusement pour nous, ce ne sont pas des mers liquides. Okay. Voilà, ce sont juste des étendues basaltiques. Hein, donc c'est recouvert du matériau plus sombre.
Voilà, c'est en fait de la lave qui a refroidi.
C'est de la lave refroidie, c'est du basalte, mais alors ça fait plus sombre. Nous, quand on regarde la Lune à l'œil nu, ben on voit ces étendues sombres. C'est vraiment, on peut marcher dessus, il n'y a pas de problème, hein, c'est juste de la lave durcie, séchée. Mmh. Alors par contre, la sonde Lunar Prospector a détecté de l'hydrogène, elle, juste de l'hydrogène, et elle en a découvert une quantité de 1,5% au pôle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, sur Mars, dans les régions les plus arides, l'hydrogène, son taux, c'est 2%. C'est-à-dire que ce qu'a détecté Lunar Prospector, c'est encore plus aride, c'est encore plus inférieur aux régions les plus sèches sur Mars. Donc, c'est franchement pas beaucoup. Et qui dit détection d'hydrogène ne veut même pas en plus dire de l'eau. C'est juste de l'hydrogène. Donc, ça veut, c'est pas synonyme de détection d'eau. Deep Impact. Alors, Deep Impact a étudié aussi l'eau sur la Lune et elle en a détecté un petit peu. et c'est l'équivalent d'un demi-litre sur la surface d'un terrain de rugby. Voilà la quantité d'eau qu'il pourrait y avoir. Dernière en date, c'est la sonde Elcross qui, elle, a été envoyée, qui a été se cracher sur la Lune dans le cratère Cabeus. Et l'idée, c'était d'explorer et d'étudier les éjectas après son atterrissage forcé. C'est-à-dire qu'on l'a fait percuter la Lune, on espérait voir un panache de débris suite à l'écrasement. Et finalement, eh ben, on en a déduit qu'il y aurait à peu près 95 litres d'eau. On aurait détecté 95 litres d'eau. Alors, là, on dit qu'il y a un problème de propriété. S'il y a de l'eau sur la Lune, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on pourrait l'utiliser. C'est ça l'idée, on va dire, de départ, c'est de pouvoir l'utiliser. Mais là, on se dit, s'il y a de l'eau sur la Lune, elle vient d'où ? Très probablement, les voyageuses dans le système solaire qui ont apporté l'eau partout dans le système solaire, ce sont les comètes. C'est l'hypothèse la plus probable. Et donc là, on se dit, mais là, l'eau qu'il y aurait sur la Lune, c'est de l'eau qui n'a pas évolué depuis que les comètes l'ont apportée.
Donc ça va permettre...
Donc là, on pourrait même dire, il faudrait la préserver comme patrimoine scientifique de l'humanité, carrément. Cette eau-là, il ne faudrait pas l'utiliser, il faudrait la garder et la préserver. Donc, si jamais on en découvre, on est sûr d'en avoir découvert, et on en découvre des réserves suffisamment importantes pour qu'elles puissent être exploitées, là, il y aura un problème d'éthique après. Il faudra se poser la question. Est-ce qu'honnêtement, on a le droit de l'utiliser ou il faut la garder ? Voilà. Alors, aux dernières nouvelles, ce qu'on pense, c'est que l'eau serait maintenant amalgamée à la roche. Donc, ce ne sera pas très pratique de la récupérer. Par contre, les quantités seraient quand même 100 fois supérieures à ce qu'on pensait en 2009. Et si on arrivait à la liquéfier complètement et la répartir sur toute la surface de la Lune, on arriverait à un océan global de 1 mètre de profondeur.
Voilà,
mais voilà en gros ce qu'on pense comme quantité d'eau sur la Lune. C'est pas énorme.
Non, c'est pas énorme. C'est là qu'on se rend compte que sur Terre, on avait vraiment des conditions très favorables.
Ah ça, c'est le cas de le dire.
C'est le cas de le dire. Alors passons maintenant à une planète qui suscite toujours autant d'intérêt et de fantasmes aussi. C'est la planète Mars.
La planète Mars. Alors, c'est la dernière des planètes telluriques. Alors, les planètes telluriques sont les planètes rocheuses avant de passer aux planètes géantes, les planètes gazeuses. Alors, Mars est petite, 2 fois plus petite que la Terre à peu près, hein, un peu moins de 7000 km. Elle orbite à 228 millions de kilomètres en un peu plus de 2 ans. Alors, sur Mars, qu'est-ce qu'on se pose comme question ? C'est l'eau et la vie. Voilà les deux pôles d'intérêt. Alors, la vie y était probablement possible, mais il y a longtemps, entre 3,8 et 4,5 milliards d'années, quand les conditions étaient favorables. À l'époque, l'atmosphère devait être relativement épaisse, donc il devait y avoir un effet de serre suffisant pour qu'il puisse y avoir de l'eau liquide à la surface. Alors, les objectifs actuels, quels sont-ils ? C'est de choisir surtout le bon endroit susceptible d'y abriter la vie ou en tout cas susceptible de permettre de découvrir des traces de vie fossile parce qu'on ne pense pas que la vie soit encore d'actualité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau liquide en surface maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de pression. Pression atmosphérique, 6 millibars. Sur Terre, quand on parle en millibars, il y a 1000 millibars. Là, il y a 6 millibars, donc c'est beaucoup moins. À cette pression-là, l'eau ne peut pas rester liquide. Elle passe directement de l'état gazeux à l'état de l'état solide à l'état gazeux et inversement. Mais par contre, on en trouve beaucoup à l'état de glace. Et on la trouve à seulement quelques centimètres sous la surface. Donc là, c'est vraiment très facile d'accès. En 2008, c'est la sonde Phoenix qui avait prélevé de la glace. Donc ce prélèvement de glace, pour pouvoir l'étudier, elle l'a fait fondre dans un mini-four. Et le mini-four a révélé la présence de molécules d'eau. Alors, les prochaines missions, en 2011, il y aura Mars Science Laboratory. Donc, départ en 2011. Et cette petite sonde-là sera pourvue d'un mini-four qui pourra faire chauffer les échantillons à 1100 degrés. Et à cette température-là, on pourra être capable de déceler des molécules organiques. En 2016, une autre sonde, la sonde ExoMars, là, l'ambition, c'est de pouvoir faire des forages jusqu'à 2 mètres de profondeur. En plus, elle sera équipée d'un microscope et d'un détecteur d'acides aminés et de bases de nucléotides. Alors, les acides aminés et les bases, c'est justement les briques qui permettent de faire de l'ADN. Donc ça, c'est ExoMars en 2016. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait ? On est à la recherche du futur choix d'atterrissage pour le prochain petit robot qui s'appelle Curiosity, qui doit partir en 2011. Alors pourquoi on fait un choix ? Pour plusieurs raisons. Déjà pour préserver l'intégrité du robot et pour choisir les sites les plus intéressants à explorer. Alors, quels sont les critères ? Parce qu'ils sont draconiens. Il faut un endroit sur Mars qui soit à moins de 1000 mètres d'altitude. Une raison, s'il est à plus de 1000 mètres d'altitude, il n'y aura pas assez de freinage dû à l'atmosphère. Si faible soit-elle, il y a quand même une petite atmosphère et on se sert de ce freinage atmosphérique pour atterrir. Si on va sur un site qui a plus de 1000 mètres d'altitude, le freinage ne sera pas suffisant. Et avec une arrivée à plus de 18 000 km/h, la sonde va s'écraser. Donc il faut suffisamment d'atmosphère pour être freiné. Donc maximum 1000 mètres d'altitude pour le terrain qu'on va choisir. Il ne faut pas qu'il soit trop en latitude non plus. Donc pas trop près des pôles parce que les hivers sont très rigoureux. Donc il fait très froid et les sondes ne résistent pas à l'hiver martien. Et en plus, le soleil ne réchauffe, n'éclaire pas suffisamment les panneaux solaires pour qu'elles puissent vivre très longtemps. Donc, pas trop près des pôles. Ensuite, il ne faut pas un terrain trop en pente non plus, parce qu'il faut éviter le risque de basculement.
Décidément.
Et il ne faut pas qu'il soit trop couvert de rochers. Alors, l'histoire des rochers, là, ça vaut le coup d'œil quand même. Il y a eu une règle. La règle est la suivante. Il faut que la probabilité de trouver un rocher supérieur à 55 cm sur un terrain de 4 mètres carrés dans une zone de 20 par 25 km, soit inférieur à 0,5%.
C'est amusant. Hein.
Ça veut dire sur une zone donnée, on prend une zone de 20 par 25 km, c'est énorme. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait trop de rochers trop grands. Comme ça, c'est plus facile de pouvoir diriger la sonde, le petit robot, de lui faire éviter les rochers. Alors actuellement, il y a un groupe d'étudiants qui étudient les cartes envoyées par les sondes qui sont actuellement en orbite autour de Mars et ils sont en train de compter les rochers.
Oui.
Pour pouvoir sélectionner les terrains qui répondent à tous les critères.
Il y en a très peu, si j'ai bien
compris. Finalement, de 50 au départ, on n'en est plus qu'à 4.
D'accord.
Donc, et pour répondre à tous ces critères-là, effectivement, il y en a beaucoup moins, il n'y en a plus que 4. Alors, le problème, c'est qu'il faut mettre d'accord aussi bien les astronomes que les géologues. Là, il y a deux populations qu'il faut contenter. Les uns pour que le robot puisse durer le plus longtemps possible. Les autres pour que ce que va faire le robot, ce soit le plus intéressant possible. Et ce n'est pas gagné d'avance. Alors, l'idée à retenir, là, c'est qu'on essaye de trouver des terrains donc, qui répondent à tous ces critères-là et qui, en plus, contiennent des carbonates. Alors, les carbonates, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ce sont c'est de la matière, c'est des matériaux qui se forment en réaction avec du fer, du magnésium, du calcium pour faire du carbonate de fer, carbonate de calcium, des choses comme ça, donc avec des minéraux. Mais la réaction se fait en présence d'eau. Donc, ça prouve qu'il y a eu de l'eau si on trouve des carbonates. Et les carbonates sont très fragiles, on va dire au pH de l'eau, ça veut dire qu'ils disparaissent, ils se dissolvent lorsque l'eau est acide. Ça veut dire qu'ils ne se fondent et ils ne se maintiennent que dans l'eau qui n'est pas acide. Et de l'eau pas acide, c'est de l'eau qui est intéressante pour éventuellement l'apparition de la vie. Donc voilà où on en est sur Mars. On est en train de chercher des sites intéressants pour pouvoir y envoyer toutes les futures missions. Ce qu'il faut savoir, c'est sur Mars, il y a des fenêtres de lancement. Mars est bien placé par rapport à la Terre tous
exactement.
Les deux ans. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer une sonde lorsque Mars est à l'autre côté du Soleil, ça coûterait trop cher. Donc on attend le moment le plus propice à l'envoi d'une sonde et elle y est relativement rapidement. Mais ça, on y a le droit tous les deux ans, on appelle ça une fenêtre. Donc voilà, là ce sera 2011 et puis il y aura 2014, parce que bon, c'est deux ans et quelques, hein, donc ce n'est pas tous les deux ans juste. Donc à toutes les fenêtres de lancement, par contre, on envoie des sondes, on en envoie deux ou trois à chaque fois. Et donc autour de Mars, il y a plus en plus de sondes. En plus, les petits robots Spirit et Opportunity, qui étaient partis pour y résister que 90 jours, finalement, ça fait déjà des années qu'ils y sont.
Et ils continuent à...
Alors il y en a un qui, maintenant il ne peut plus parce qu'il a été ensablé et on n'arrive plus à le sortir du bourbier dans lequel il s'est mis. Par contre, il y a Opportunity qui continue à rouler et qui continue à nous envoyer des informations. Et il détecte là, les dernières informations, c'est des météorites. Donc il explore des météorites martiennes, des météorites qui sont tombées sur Mars.
Ça, c'est intéressant.
Voilà.
Bah, écoutez, on pourrait y passer des heures, hein, mais je crains fort que ça ne soit pas possible. Il va falloir prévoir une prochaine émission.
Eh bien, pas de problème. Donc, prochaine émission, la suite du système solaire. On démarrera sur Jupiter.
Sur Jupiter. Merci, Lionel. À bientôt.